Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bienvenue à tous en cette glorieuse journée de Pâques, si glorieuse que le pasteur a mis une cravate. Ne vous formalisez pas. Pâques, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est vraiment le plus beau sujet dont on puisse s'entretenir, sur lequel on puisse enseigner, sur lequel on puisse méditer. Et on va demander au Seigneur de bénir notre temps de méditation. Seigneur, tu vois combien nous pouvons considérer ces fêtes de Pâques, de Noël, comme des choses un peu traditionnelles qui reviennent chaque année, auxquelles nous sommes habitués. Mais Seigneur, ce matin, nous te demandons de briser toute routine qui nous endormirait dans l'appréciation de ces grandes vérités grandioses, Seigneur. Aide-nous vraiment à d'abord être convaincus de cette résurrection, mais aussi d'en méditer les conséquences et de la partager avec ceux qui nous entourent. Seigneur, nous sommes au bénéfice de cette résurrection, comme nous allons le voir. L'apôtre Paul disait que sans elle, toute notre foi est vaine, ne sert à rien. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des hommes les plus malheureux. C'est ta parole qui nous le dit. Mais le sous-entendu évident, c'est que cette résurrection, elle s'est bien passée, historiquement, réellement, physiquement. Et Seigneur, ça change tout. Aide-nous à le comprendre davantage encore ce matin. Te demandons par ton Esprit Saint, Seigneur, d'annoncer, de toucher les cœurs, Seigneur. Dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen. J'aimerais qu'on regarde ensemble le passage de 1 Corinthiens 15. La résurrection de Jésus-Christ telle que Paul l'a décrit dans 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, Paul, le grand apôtre, nous donne l'essence, le résumé, le concentré d'évangile. Il nous dit que si on s'écarte de cette vérité, alors ça ne sert à rien, on ne sera pas sauvé, on aura cru en vain. Et là, si vous devez expliquer à quelqu'un quel est le message de l'Évangile, vous l'avez là en 4 versets, ou 2 versets, mais on va les lire. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. » Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Puis il continue qu'il a été vu par Jacques, tous les apôtres, et puis lui-même, Paul, qui se considère comme un avorton, comme quelqu'un de faible, qui est le moindre des apôtres. Et puis, il dit au verset 12, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, donc les chrétiens annonçaient que Jésus-Christ était ressuscité, revenu à la vie physique, Il pose la question, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Certains pensaient que la résurrection n'était pas pour les hommes, qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Et Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que Christ, qui était le premier des ressuscités, n'est pas ressuscité non plus. Et il a ces phrases très fortes. Si Christ n'est pas ressuscité, verset 14, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine, vide de sens, inutile, stupide, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps, vous ne devriez pas être ici, vous devriez être sur la plage en train de faire du vélo. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et il ajoute ces paroles qui doivent nous faire réfléchir. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que souvent les chrétiens se disent, bon, mais je ne fixe pas mes priorités sur cette vie, je vis du mieux que je peux pour faire du bien autour de moi, pour faire connaître ma foi, mon Christ, mon Sauveur, mais je sais qu'il y a toute une éternité qui m'attend. Donc les persécutions, les revers de fortune, les maladies, les choses difficiles de la vie, ce n'est pas grave, entre guillemets. Relativement, par rapport à l'immensité de l'éternité, les quelques années que nous passons sur cette terre, le but c'est pas de maximiser le plaisir sur cette terre. Mais s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de vie après la mort, alors on est vraiment bête, on a tout raté. On n'a pas profité de la vie comme on aurait dû en fixant tous nos efforts pour avoir la plus belle situation sociale, les plus belles conditions de vie, la plus belle maison, les plus belles voitures. Mais la résurrection, en fait, elle est avérée. C'est pas un mythe, c'est quelque chose qui s'est passé historiquement. Alors, certains disent, oui, mais tu dis ça, mais tu n'as pas de preuves, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'enregistrement radio, mais il y avait des témoins, et on ne va pas faire... toute une étude sur la vérification ou sur la justification de l'historicité de la résurrection, mais juste que vous sachiez quelques points lorsque les gens vous mettent en cause la résurrection. Vous savez que Jésus avait été mis au tombeau, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, un homme riche. Il y avait une grosse pierre qui fermait la porte, une pierre qui roulait, qu'on ne pouvait pas bouger seul, surtout de l'intérieur. Et pour s'assurer que la pierre ne serait pas bougée, les autorités religieuses avaient fait mettre des sceaux, des scellés, de la cire et des cordes qui montraient que on n'allait pas toucher à cette pierre. Bouger la pierre, briser les scellés, ça aurait été la peine de mort pour les gardes. Et les gardes étaient là pour empêcher que les disciples viennent toucher au corps de Christ. Mais le dimanche matin, c'est la célébration de Pâques. C'est ce qui nous rend si joyeux, c'est que la pierre avait roulé. La pierre a bougé. Est-ce que ce sont les gardes qui ont bougé la pierre? Non, c'est pas possible, ils seraient condamnés. Ils ont été condamnés au péril de leur vie. Est-ce que ce sont les disciples? Non, parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher, il y avait des gardes. Matthieu 28, 2 nous dit que le coupable, c'est « Voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Si la porte a été ouverte, ce n'était pas pour permettre à Jésus de sortir, c'était pour permettre aux disciples de venir et de voir à l'intérieur que le tombeau était vide. Jésus a disparu. Il n'y a que trois possibilités. Soit le corps a été enlevé par des ennemis. Alors on peut se demander pour quelle raison ils auraient fait ça, surtout que lorsque les disciples ont commencé à annoncer cette résurrection, il leur aurait été facile de tuer dans l'œuf de Pâques, mauvais jeu de mots, de tuer dans l'œuf cette nouvelle religion qui commençait à se répandre en disant « Attendez, ils vous racontent des histoires, voilà le cadavre de ce Jésus qu'ils vous disent a été ressuscité. » Soit le corps a été enlevé par des amis, mais encore une fois, comment est-ce qu'ils auraient pu faire pour ne pas se faire attraper par les gardes? La seule solution, c'est que le corps est parti de façon surnaturelle, par un miracle. Les gens qui se disent rationnels, mais qui lisent leur horoscope souvent, disent que c'est un miracle, c'est pas logique, c'est pas possible, c'est pas rationnel. Mais rien que ces éléments nous montrent que c'est là un miracle, c'est la seule explication logique. Ça, c'est au niveau de la disparition du corps, mais le fait le plus marquant, le plus convaincant, c'est que tous les disciples, lorsque Jésus a été crucifié, se sont battus pour lui. Non, ils sont allés se cacher, se terrer. Ils avaient peur qu'on leur fasse la même chose qu'à Christ. Et puis, il y a ce matin de la résurrection, les femmes qui vont au tombeau pour embaumer et qui repartent et qui ne sont pas crues par les apôtres. Et puis Pierre et Jean retournent et voient effectivement que le tombeau est vide. Et Jésus va se montrer à Pierre, aux douze. Et après, tous ses disciples vont, sauf l'apôtre Jean, qu'on va essayer de faire mourir, tous les disciples vont être martyrisés. Ils vont être mis à mort pour leur foi. Plus aucune peur, plus aucune réticence à parler de leur foi. Ils annoncent l'Évangile. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commencé à cette époque à annoncer l'Évangile. Prêcher la résurrection. Donc ça, c'est des éléments, je veux insister, que vous devez d'abord intégrer dans votre pensée, et puis dire à vos amis qui ne croient pas ou qui croient dans d'autres, qui suivent d'autres religions, de leur dire où est Bouddha, on a trouvé ses ossements quelque part, où est Mohammed aujourd'hui, et leur dire que vous respectez leurs croyances, mais vous préférez suivre un Messie vivant. Il est vivant aujourd'hui, et ça fait toute la différence. Quand on pense à la résurrection, on devrait méditer dessus. Et c'est au bénéfice de lecture de quelqu'un qui méditait là-dessus et qui voit dans la résurrection quatre axes de pensée, de réflexion essentielle. D'abord, vis-à-vis de son Père, que veut dire la résurrection de Jésus ? Vous vous souvenez, dans la prière de Jésus, qui est rapportée dans Jean 17, qu'on appelle la prière des fois sacerdotale, la prière à son Père, Jean 17, on va voir beaucoup de versets dans différents passages. Certains, je vous lirai pour que vous n'ayez pas à les chercher. Les disciples, eux, ils étaient complètement morfondus, désespérés, ils étaient tout à leur chagrin, mais ils ne pensaient pas tellement à ce Jésus dont ils disaient être les disciples. Parce que pour Jésus, la résurrection, ça voulait dire le retour à la maison. Le retour à son Père. Dans Jean 17, 11, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en mon nom, afin, etc. Mais moi, je vais à toi. » Verset 13, « Maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » L'idée de retourner, ça lui donnait cette joie parfaite qui était la sienne. Il retourne d'abord à la communion avec le Père. Au commencement, nous dit Jean, était la parole, et la parole était avec Dieu. Ce qui veut dire que la parole était face à face avec Dieu, dans le texte original. Il y avait une intimité, une communion dont nous ne pouvons pas saisir la profondeur, l'intimité, l'étendue, la magnitude, la beauté, et je vous laisse ajouter d'autres qualificatifs. L'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour que nous pouvons avoir pour notre femme, notre mari, pour nos enfants, ce n'est qu'une pâle réflexion de cet amour qui unit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et à un moment, Jésus va leur dire, lorsqu'ils sont tout déprimés parce qu'il leur dit qu'il va rentrer, il leur dit, verset 28 du chapitre de Jean 14, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Si vous étiez malin, si vous étiez sensible à mes sentiments, vous devriez bondir de joie, même si je vous laisse. Imaginez ma joie. » Il parle dans Jean 17 aussi, verset 5, de la gloire qu'il avait auprès du Père. Jésus retourne. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de retour. Le retour de Jésus à son Père, c'est aussi pour l'adoration, pour l'exaltation du Père. Verset 5 de Jean 17, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il n'y a pas de différence de gloire entre Jésus et le Père et le Saint-Esprit. Le retour de... Si, lorsque, dans Jean, on n'a pas fini de lire, il disait « Vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Et certains cultes disent « Ah, voyez, c'est la preuve que Jésus est moins que le Père. » Là, il est question de sa position sur la terre. Il est moins dans la possibilité, dans son présente. Mais il retourne et le Père est glorifié. Il s'est humilié en venant sur la terre, en quittant cette gloire qui était la sienne de toute éternité, Ça, c'est Philippiens 2:9 qui nous en parle, 9 et 10. Verset 8, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais à côté de ça, il y a eu la glorification. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le retour possible par la résurrection, ça aboutit à la glorification de Jésus et de celle du Père, parce qu'elles sont intimement liées, elles sont uniques, elles sont ensemble. Un troisième point pour le retour au Père, c'est qu'il validait la parole, la résurrection valide la parole de Dieu. Les grands sermons qui sont décrits dans la Bible ou rapportés dans la Bible touchent tous à la résurrection. Parce qu'encore une fois, la résurrection, c'est la clé de voûte de la foi chrétienne. Vous enlevez la résurrection et tout s'écroule. Mais, encore une fois, la résurrection, c'est un fait historique et c'est un fait qui a toutes ses conséquences. Jésus, en retournant au Père, validait la parole du Père. Par exemple, dans le psaume 2, psaume 2, verset 7, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Là aussi, les sectes, les témoins de Jéhovah, les mormons et d'autres utilisent ce passage pour dire, voyez, Christ a été créé par le Père. Mais encore une fois, le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Et dans le livre des Actes, Actes 13, 23, nous avons un commentaire qui nous montre qu'en fait, il s'agit de la résurrection, cet engendrement, le fait qu'il l'a donné à la vie. Actes 13, verset 33, Paul prêche à Antioche de Pisidie et il dit verset 32, « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, la prophétie, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Il y a, juste citer un autre, c'est le mot de résurrection figure plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. 104 fois d'après un calcul que j'ai lu. Encore une fois, c'est le centre. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une idée nouvelle. C'est dans l'Ancien Testament que c'était prévu par Dieu de toute éternité, comme on l'a chanté. Psaume 16, verset 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour de mort, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Là aussi, acte 13, 35, acte 13, verset 34, qu'il les ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit, Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. Et, verset 35, en conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. La résurrection était prévue de longue date et le retour de Christ à son Père valide vous montre que vous pouvez avoir foi dans la parole de Dieu, dans la Bible. Toutes ces prophéties se sont réalisées à la lettre. Deuxième aspect de la résurrection, c'est ce que la résurrection signifie pour le Saint-Esprit. Acte 2. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui fait son premier sermon le jour de la Pentecôte. Et donc, il dit que la résurrection allait entraîner l'envoi du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, plutôt l'évangile de Jean, verset 7 du chapitre 16, on peut lire à partir du verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si la résurrection n'a pas eu lieu, Jésus n'aurait pas pu envoyer le Saint-Esprit. Pas de résurrection, pas de Saint-Esprit sur la terre. Pas d'exaltation. L'Esprit, nous savons qu'il est venu impartir la puissance pour le témoignage de Jésus-Christ. Acte 2, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous pourrez être mes témoins à Jérusalem en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce Saint-Esprit donne aussi la conviction aux hommes. Jean 16, 8 et 11. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Si vous ne croyez pas en Christ, vous ne pouvez pas être sauvé de vos péchés. Vos péchés vous restent sur la conscience et vous aurez à payer pour eux. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Ça voulait dire que Jésus avait atteint conservé une justice parfaite. Et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Si Satan a été jugé, lui qui était le chef des rebelles, vous qui êtes un petit rebelle dans vos péchés, sachez que vous allez être jugé. C'est le Saint-Esprit qui vous le fait comprendre. C'est le Saint-Esprit qui le parle à votre cœur. Pas de Saint-Esprit, pas de conviction, pas d'évangélisation. Qui a écrit la Bible ? Les apôtres, ou des hommes proches des apôtres, des prophètes pour ce qui est de l'Ancien Testament. Mais nous savons que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. 2 Pierre 1:21. Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous enlevez la résurrection, il n'y a plus de Saint-Esprit et il n'y a plus de Bible. Waouh ! Que vaudrait d'ailleurs une Bible où il n'y aurait pas la nouvelle de la résurrection? Une autre application, c'est que le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et il nous fait comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est dans 1 Jean 2, il y a des passages qui parlent de ça. Pas de résurrection, pas de Saint-Esprit, pas de parole inspirée, pas de professeur dans notre cœur nous faisant comprendre la parole. Bref, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a plus de parole de Dieu. Et puis, s'il n'y a pas de résurrection, on sait que le Saint-Esprit est venu pour demeurer dans l'Église, pour faire de nos corps le temple de l'Esprit. Moi, je prierai c'est Jean 14, 16. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Nous avons un professeur privé, particulier. On a des cours particuliers si on ouvre nos cœurs à la parole de Dieu. Et c'est parce que le Saint-Esprit est tombé, est venu comme des langues de feu au milieu des apôtres réunis qui priaient, que l'Église a pris jour, est née. S'il n'y a plus d'Esprit, pas d'Église. Pas de résurrection, pas d'Esprit, pas d'Église. On peut aller à la pêche. Mais non, parce que le troisième axe, c'est que veut dire la résurrection pour nous les hommes, pour nous les chrétiens. Paul dans Romains 4, verset 24 plutôt. C'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur. Il s'est livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Nous pouvons être déclarés justes parce qu'il y a la résurrection, parce que le sacrifice offert avec l'agneau parfait a été accepté. Il y aurait pu avoir un sacrifice, mais s'il n'y avait pas la résurrection, ça voulait dire que le Christ n'était pas, nous n'étions pas pardonnés. Il n'y avait pas de justification. On ne pouvait pas être déclaré juste. Il a porté nos péchés, il a payé le prix de notre salut, mais maintenant qu'il est ressuscité, le Père peut dire, vous êtes justifié, vous êtes déclaré juste. Quand je vous vois, je ne vois pas Pierre avec tous ses péchés, je vais nommer personne d'autre, ça suffit, il y en a bien assez. Je vois Jésus que tu as accepté. Je vois Jésus qui est vivant. Galates 2:20, Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Si Jésus était mort sans ressusciter, ça voulait dire que le paiement était insuffisant. Ah, désolé, il en manque un peu, parce qu'il y a les péchés de Pierre, ça ne va pas le faire. Mais il est ressuscité. Il nous a aussi délivrés du péché. 1 Corinthiens 15, 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Pas de résurrection, pas de sacrifice accepté, pas de justification, on est toujours dans mes péchés, dans nos péchés. C'est en Christ que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés, que nous sommes délivrés du péché. 2 Corinthiens 5:21 dit « Si celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est en Christ, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en faisant des bonnes actions, c'est en nous identifiant à Christ et en étant en lui que nous sommes libérés de nos péchés. Romains 8, 1 dit qu'il n'y a aucune condamnation pour qui ? Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dieu nous donne par Jésus-Christ la vie. Vous vous souvenez de la résurrection de Lazare, Jean 11, 25 et 26. Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et je vous dis, croyez-vous cela ? Amen. Pas de résurrection, pas de vie. Et puis, cette résurrection, qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous, qui fait que nous sommes joyeux ? Nous avons du plaisir à célébrer cette résurrection, c'est que Jésus prépare un endroit pour nous. Vous vous souvenez, dans Jean 14, il disait « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et verset 2 de Jean 14, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. » Je vais vous préparer un endroit. Il ne va pas préparer une place pour les chrétiens, il va préparer une place pour Élie, il va préparer une place pour Nassim, il va préparer une place pour Jean-Claude. Ce qui va vous être nécessaire, ce à quoi vous aspirez du plus profond de votre être va être là. Ça va être la maison de vos rêves. Et puis, il nous donne la puissance pour vivre la vie de chrétien. Philippiens 3, 10, Paul disait « Mon but, c'est de le connaître, lui, ainsi que la puissance. » Quel genre de puissance ? La puissance de sa résurrection. L'énergie atomique à côté de la puissance de la résurrection, c'est de la gnognotte. C'est de rien du tout. C'est du pipi de chavou. C'est absolument nul. La puissance de la résurrection qui peut mettre fin à la mort et ramener à la vie. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de paradis, pas d'endroit prévu. Et puis, il est dit dans la Bible à plusieurs passages que Jésus intercède pour nous. Il prie pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pris le temps de prier. Dommage. Mais quelqu'un a prié pour vous. Des fois, le pasteur le fait. Mais soyez sûr que Jésus le fait à tout moment. Jésus intercède pour nous. Il est vivant, dans Hébreux, il est dit, pour intercéder. Dans Romains, il est dit, qui peut vous attaquer? Qui vous attaquera? Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Encore ce mot, plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Il intercède pour nous. Il se met entre le Père et nous pour dire, bénis ton enfant, bénis cette personne. Bref, s'il n'y a pas de résurrection, pas de retour, pas de Saint-Esprit, pas de puissance, pas de résolution de l'histoire, il n'y a plus de Bible, et le marasme actuel, la corruption, les crises économiques, les crises morales, les crimes, les guerres, la corruption de partout, la folie meurtrière, la laideur, ça va être là pour toujours s'il n'y a pas la résurrection. Dieu merci, il va y avoir une fin à tout ça. Tout ce qui est laid, tout ce qui est mauvais, tout ça va être racheté, tout ça va être transformé, tout ça va disparaître pour donner place à quelque chose de beau comme le soleil. Quatrième axe de réflexion pour la résurrection, d'abord le Père, d'abord puis le Saint-Esprit, nous-mêmes. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui rejettent Jésus-Christ, pour ceux qui ne viennent pas à lui. On étudie l'Apocalypse le mardi soir et on a vu dans Apocalypse 1,18 Jésus qui, une merveilleuse vision de Jésus qui dit « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me... » Encore une fois, il était mort, mais voici vivant. « Au siècle des siècles, pour toujours, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Qu'est-ce que ça veut dire, ces clés? Ça veut dire qu'il est un peu comme le geôlier, celui qui contrôle qui va entrer et qui ne va pas entrer en prison ou être libre. Bref. Il est celui qui va déterminer notre destinée éternelle. Et le choix appartient aux hommes. Il est dit dans Actes 17, 31. Verset 30 pour commencer. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Il va y avoir un jugement. Et si vous ne vous mettez pas au bénéfice de cette résurrection, vous allez être séparés de Dieu en enfer pour le reste de l'éternité. On dit oui, c'est un peu... C'est la vérité, mes amis. Contrairement à la chanson, on n'ira pas tous au paradis. Et l'enfer, c'est pas maintenant. Aussi mauvais que votre situation puisse être, c'est rien. En lisant, en étudiant l'Apocalypse, on voit, on a un petit aperçu de ce que pourraient être des choses vraiment difficiles. Et ça encore, c'est rien vis-à-vis de l'étang de feu destiné à Satan, ses anges et à ceux qui continuent à les suivre. Romains 19, je terminerai avec ce verset, peut-être. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur, ce matin, l'Esprit vous dit qu'il est encore temps, grâce à cette résurrection, qui est la preuve de tout ce qu'on a évoqué, que vous pouvez être sauvés. Ne dites pas « Dieu est injuste, il en garde certains à l'écart, d'autres il accepte ». Non, vous pouvez tous être sauvés. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour la merveilleuse vérité de la résurrection. Merci parce que c'est aussi un fait historique avéré, indéniable. Certains ont essayé d'écrire des livres pour la contester et sont tombés à genoux devant toi, devant le vivant, le ressuscité. Seigneur, je prie ce matin, s'il y en a qui n'ont pas encore accepté ce merveilleux salut que tu offres à ceux qui s'approchent de toi, qu'ils puissent, dans leur cœur, confesser que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et qu'ils puissent le confesser de leur bouche. Qu'ils puissent dire que oui, Jésus est Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, nous te demandons vraiment de convaincre chaque personne ici présente qui n'aurait pas encore fait cette démarche. Si vous le souhaitez, vous pouvez prier dans votre cœur une prière suivante pendant que nous sommes tous dans le recueillement. Seigneur, je sais que je suis un pécheur, j'ai besoin de ton pardon. Je te demande de me pardonner pour ces péchés que je regrette. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à y venir. Je mets toute ma confiance en toi seulement pour ma vie éternelle. Merci d'écouter ma prière et merci pour le don de Jésus et de la vie éternelle. Amen. C'est la plus grande des décisions que vous deviez prendre. Il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes sous les cieux par lesquels nous devions être sauvés que celui de Jésus-Christ. Amen.